France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 2, le manoir des chanterelles.
J'ai compris au moins que c'était un menteur, mais pour moi, c'est pas un mec dangereux, il va pas me taper dessus. Bon, par contre, je comprends que c'est un gros menteur qui me raconte que des salades. Et je me dis, comment je vais m'en débarrasser, quoi ?
De son vrai nom Alain Jolois, l'homme dont parle Alice va passer 40 ans de sa vie à mentir, à vivre sous des identités, des biographies et des personnalités complètement différentes. Écossais, bourguignon, canadien, suisse, espion, homme d'affaires et j'en passe. Est-il un menteur, un mythomane, un escroc ou un salaud ? Pour découvrir l'étendue de ses méfaits et de ses mensonges, il faut laisser Alice et son espion du MI6 un instant et remonter au début du siècle, autour de 2005. Nous sommes en plein Quercy, à Mozac, au pays de la bonne chère, de la truffe et du cabécou. Sylvain et Nathalie, un couple qui a passé la cinquantaine, ont enfin réalisé leur rêve, ouvrir une chambre d'hôte dans un manoir, le manoir des chanterelles. Deux petites tourelles carrées, un grand escalier anglais, pas tout à fait un château, mais presque. 5 chambres, 5 salles de bain, plus un bel appartement pour la famille. Les affaires vont bon train jusqu'à ce jour de février où Sylvain reçoit un coup de fil de l'Office du tourisme qui leur adresse parfois des clients.
Je m'appelle Sylvain Brard, je suis le propriétaire des manoirs des Chanterelles à Mozac et je vais avoir 60 ans au mois de mai. Moi, j'étais directeur export d'un grand groupe dans l'agroalimentaire, donc je voyageais beaucoup à l'étranger. Et j'avais beaucoup de clients dans les pays de l'Est, en Asie et dans tous les pays d'Europe. Et c'est vrai que dans les affaires, je suis plutôt quelqu'un de... Je suis un vérificateur. Alors, nous avons reçu un coup de téléphone de l'Office du tourisme de Montauban qui cherchait un hébergement de charme à la campagne pour un cinéaste qui venait d'arriver à l'Office du tourisme de Montauban puisqu'il était tombé en panne de voiture. Et donc, il cherchait un endroit le temps que sa voiture soit réparée. L'Office du tourisme a pensé au manoir des Chanterelles, puisqu'on est à une quinzaine de kilomètres de Montauban, en pleine campagne. On avait de la place. Donc, à 18h, en sortant de mon travail, je suis allé chercher ce client qui n'avait pas de véhicule et qui est monté dans ma voiture et qui est venu au manoir des Chanterelles pour être hébergé pendant quelques jours, puisqu'on ne savait pas combien de temps durait la réparation de la voiture. Donc nous avons fait le trajet d'une quinzaine de minutes ensemble. Il avait un fort accent canadien et il parlait quand même très bien français. Et il m'a raconté qu'il travaillait pour le studio de tournage de Claude Lelouch, qu'il était cinéaste, qu'il écrivait des scénarios et qu'ils étaient en ce moment sur la création d'un film qui va se faire là dans la région et autour des châteaux cathares. Il allait regarder effectivement notre maison et notre manoir. On est arrivé devant le portail du manoir. Le portail s'est ouvert avec la télécommande. Le manoir était au fond de l'allée de platane. Il y avait du brouillard ce soir-là quand je l'ai ramené. Et il s'est exclaffé en disant « Wow, that's what I need !» Alors je lui ai dit « Mais what do you mean ?» Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est une maison de maître qu'il me faut pour recevoir les acteurs principaux. Et voilà, on a descendu de la voiture et on est rentré dans le manoir. C'était un monsieur qui avait une 40-45 ans, il était un peu bidonnant, un peu costaud, il avait un nez assez prononcé, une petite barbe, il avait un truc qui m'avait marqué, il avait une verrue assez conséquente sur le nez. De la façon dont il s'est présenté, quelqu'un qui parlait très bien, il était bien habillé, enfin, il avait un sac à dos et bon, ben moi j'aurais donné le bon Dieu sans confession puisque c'est l'Office du tourisme qui m'avait appelé, qui faisait la réservation. Dès qu'il est arrivé, on lui a fait choisir sa chambre, parce qu'on a 5 chambres à thème. Donc je me souviens qu'il avait pris la chambre savane. Et donc c'est une chambre avec une déco Afrique du Sud, qui était la plus petite. Bien sûr, il a mangé avec nous le premier soir, quand on est arrivé à 18h. Et puis il nous a dit qu'il mangerait avec nous tous les jours, puisqu'il n'avait pas de véhicule. Donc il était un petit peu coincé ici, puisque nous sommes quand même en pleine campagne. Donc on avait prévu qu'il dîne avec nous tous les soirs en table d'hôte. C'est surtout qu'il avait dit qu'il nous paierait un acompte le lendemain. Par contre, le lendemain, il y avait un problème parce que dans la chambre savane, il n'y avait pas de bureau. Et donc, il avait bien l'intention de continuer à écrire son scénario. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, il dit à Nathalie, non, mais ça ne peut pas aller, je n'ai pas de bureau, moi, je ne peux pas écrire sur mon lit. Il faut... Donc, dans le coup, on est parti au magasin, lui acheter un bureau. Et puis, une fois qu'il a eu son bureau, il nous a dit, tiens, j'aimerais bien passer dans l'Oriental. Alors, donc, il a pris ses quartiers dans l'Oriental, qui est la chambre d'en face, qui est une belle chambre avec une déco marocaine. Là, il y avait une table, donc ça ne posait pas de problème. Et puis, quelques jours après, il a décidé d'aller dans la Française. Donc, il s'était dit, c'est bien parce que ça me permet de voyager. Et c'est l'Orient, c'est l'Asie, c'est l'Afrique. Et puis, ça me donne des idées pour continuer à écrire mon scénario. Et donc, c'était quand même une période calme parce qu'en février, on a peu de touristes. Donc, on travaille principalement le week-end. Comme il était toujours là et que sa voiture n'était toujours pas réparée, il s'était passé déjà une semaine. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti avec Nathalie à Bruniquel à rencontrer le maire, parce qu'à Bruniquel, il a été tourné Le Vieux Fusil avec Romy Schneider, et donc ça a été un film quand même pour la région qui a été, c'est incroyable. Et donc il était au courant de ça, et il a voulu visiter le village. Donc Nathalie l'a emmené pour visiter le village, et donc ils ont eu l'occasion d'aller à la mairie. Mais il n'avait pas de portable à l'époque, donc il a demandé à ce que Nathalie s'arrête en sortant de sa rencontre avec le maire dans la cabine téléphonique, pour qu'il appelle donc Robert.
Alors, c'est qui Robert ?
Alors Robert, c'est le responsable qui s'occupe de tout ce qui est création artistique pour le studio numéro 13 de Claude Lelouch. Donc il appelle le Robert en question et donc pour lui expliquer, lui raconter sa journée et lui dire qu'il y avait une opportunité pour avoir à nouveau le village de Bruniquel pour le tournage du film. Au manoir, en arrivant ici, il s'est rendu compte, il a voulu me régler, enfin me payer un acompte par rapport à son hébergement, et il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille dans la cabine téléphonique. Alors il m'a dit, je vais demander à Robert d'envoyer un fax immédiatement pour valider mon identité et pour vous dire que c'est lui qui va vous payer par virement les sommes qui seront dues par rapport à mon hébergement au manoir des Chanterelles. On a fait confiance parce qu'on a reçu effectivement nous aussi des fax du studio numéro 13. En vérifiant, on avait bien vu que c'était le studio de tournage de Claude Lelouch.
Une semaine se passe. Nathalie et Sylvain trouvent la compagnie de ce cinéaste canadien qui dit s'appeler Alan McGregor, plutôt divertissante. Avec leurs deux fils, Anthony et Alexandre, ils se trouvent emportés dans un tel flot de paroles et tourbillons d'événements qu'ils ne pensent même pas à demander où en sont les réparations de la voiture.
90% du temps, il nous parlait de cinéma et comme c'était passionnant et qu'il connaissait tous les détails d'un tournage et autres, on en apprenait beaucoup. Après, dès qu'il y avait un sujet où il savait qu'on était passionné, par exemple le cheval pour Anthony, il embrayait sur ce sujet-là. Moi, il savait que j'étais à l'international, donc je voyageais beaucoup pour mon travail. Il me demandait souvent comment s'est passée ta semaine en Asie et des choses comme ça. Ce qui était aussi très, très drôle, c'est qu'il a mangé certains soirs avec des amis à nous. Et alors, tout le monde était en admiration devant ce qui était en train de nous arriver, parce qu'il était tellement cultivé, il était tellement... passionné de cinéma, qui nous racontait, et il avait des questions de la part de nos amis, et il savait répondre à toutes les questions, et c'était des réponses justes à des sujets, quels qu'ils soient. Donc c'était croustillant, quoi. Il s'intégrait très très vite, et puis il mettait les gens à l'aise. Il n'était pas du tout coincé, ni hautain, ni quoi que ce soit. Il s'adaptait à la clientèle, entre guillemets. Parce qu'il était là aussi quand on avait des clients traditionnels qui étaient là à la chambre d'hôte, puisqu'il était à la table d'hôte tous les soirs. Il était très agréable, il faisait partie de la famille. Et puis, alors il était souvent seul et on mangeait avec lui, avec les enfants. Et voilà, il a vécu avec nous dans la maison. Dans la journée où il était dans sa chambre à écrire son scénario, où il était devant la télé. Et alors, il était très, très ingénieux parce qu'il avait, à l'époque, on achetait les films sur la télé. Il avait un petit carnet, sur son petit carnet, il écrivait « Tel jour à telle heure, j'ai regardé tel film, ça vaut tant ». Donc il m'avait dit « Dans la facture, tu marqueras ça et c'est Robert qui paiera la facture sans problème ». puis, il nous entretenait, parce que tous les matins au petit déjeuner, il nous racontait la progression de son scénario. Il nous a surtout beaucoup parlé de chevaux. C'était Jean Reynaud, qui était à cheval, qui était l'acteur principal. Beaucoup de courses-poursuites autour des châteaux cathares. Donc, il nous donnait quelques détails par rapport au positionnement des chevaux, le nombre de chevaux, le nombre de figurants qu'il allait avoir, le nombre de personnes qu'il allait falloir mettre sur le tournage pour pouvoir faire ceci, faire cela. Et il connaissait tous les monuments intéressants. Il avait entendu parler de Moissac, il connaissait l'abbaye. Et donc, souvent, il me demandait la veille au soir, demain soir, en sortant du travail, est-ce que tu pourrais m'emmener voir le cloître, voir l'abbaye, faire des repérages. Donc, bien sûr, moi, avec plaisir. Donc, quand je quittais le travail, on est allé visiter l'abbaye, visiter le cloître à plusieurs reprises. Et il m'avait demandé de trouver les propriétaires de châteaux qui étaient en ruine. Ça appartenait au Conseil Général. Et donc j'avais demandé à mon patron de l'époque, à mon président, de me mettre en relation avec le président du Conseil Général. Il y avait eu un accord de principe qui avait été donné. Alors lui était content comme tout. De suite, il appelait. Alors on avait des appels entrants, des appels sortants au niveau du manoir. C'était impressionnant. Donc dès qu'il avait des retours positifs, il appelait Robert en disant « ça c'est calé, donc Bruniquel c'est calé, le château en ruine c'est calé, je suis allé à Moissac voir l'abbaye, le cloître. Alors là, il y a des scènes exceptionnelles à faire. Il faut qu'on demande l'autorisation à la mairie pour rentrer avec des chevaux à l'intérieur du cloître. » Et alors, au niveau des acteurs, il nous avait impressionnés parce qu'il nous a dit qu'il y avait Jean Reynaud, il y avait Isabelle Otero, Gérard Darmon et Claire Klein. Donc ça, c'était les quatre acteurs principaux qui devaient tourner dans le film. Et donc l'intention de Robert, c'était de loger ces gens-là au manoir et qu'il m'avait même demandé quelques jours après de commencer à me renseigner sur les hôtels aux alentours pour pouvoir mettre les autres personnes qui allaient pousser les chariots et ainsi de suite. Donc j'avais commencé à prendre contact avec des hôtels aux alentours pour pré-réserver des chambres pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc voilà. Alors nous, on était au tout début de notre expérience maison d'hôte, puisque ça faisait que 2 ans. Donc on n'avait pas fini les travaux et on n'avait que 3 chambres de fini au niveau de la chambre d'hôte. Donc il en manquait une. D'ailleurs, on était en pleine construction de la piscine. Et il nous avait dit, mais vous inquiétez pas, Nathalie et Sylvain, je vais en parler à Robert. On prendra en charge les travaux du 2e étage. Et s'il faut faire une chambre de plus pour pouvoir retenir votre domaine, c'est Robert qui paiera. Il était très créatif, il avait plein d'idées. Vraiment, ce n'était pas quelqu'un de taciturne. Donc, on n'avait pas beaucoup de place pour parler, nous, parce qu'en fait, il parlait beaucoup, lui. Et il nous disait toujours des choses intéressantes. Tous les soirs, avec Nathalie, on était sur le lit. On avait du mal à s'endormir, quand même. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivaient tous les jours. À un moment, il a dit à Nathalie, puisqu'il n'avait plus sa carte bleue ni rien du tout, il avait envie d'avoir un portable. Donc, il lui avait dit, Nathalie, est-ce que tu pourrais m'amener à Montauban pour que j'achète un portable? Elle était pratiquement prête à lui acheter un portable. Bon, je lui dis, ça va, ça suffit, faut pas exagérer. Et il nous avait exposé comment ça allait se terminer à un moment ou à un autre. La voiture allait être réparée, il allait repartir. Mais peut-être qu'avant ça, il y allait avoir les acteurs principaux qui allaient venir au manoir pour valider le fait de louer ou de ne pas louer le domaine. Donc le soir, on était avec notre calepin, notre calculette et notre crayon à papier. Et il fallait qu'on fasse un devis pour accueillir les 3-4 principaux artistes en pension complète. Donc ça veut dire quoi? Il nous disait, surtout, attention, peut-être ils vont vouloir du foie gras, peut-être ils vont vouloir du caviar, peut-être ils vont vouloir du champagne à tous les repas, ou peut-être ils voudront que du vin blanc, on ne sait pas. Donc il faut que vous optimisiez votre tarifaire journalier, parce que vous ne pourrez pas mettre de supplément. Vous devez faire le juste prix et répondre présent à toutes leurs demandes. Donc vous devez faire un budget global que vous allez présenter à Robert, qui va comprendre l'hébergement et les repas. Prévoyez large. Le studio Claude Lelouch ne regardera pas sur la dépense compte tenu de l'ampleur du film qui va se faire derrière. On rêvait, hein. On s'endormait le soir avec des paillettes dans les yeux et on se disait, mais c'est quand même incroyable ce qui nous arrive parce que bon, on était qu'au démarrage de notre chambre d'hôte et on pensait pas avoir cette opportunité-là. Donc les acteurs, il nous les avait annoncés, il m'a dit, il y aura peut-être Isabelle Otero, mais c'est pas sûr, mais c'est sûr, il y a Gérard Darmon qui vient et Jean Reynaud, donc il faut les accueillir comme il faut. Il nous a fixé une date. Donc c'était Un vendredi matin où il m'avait dit « Sylvain, il faudrait que tu réserves une limousine pour le jour J à l'aéroport de Blagnac. » Parce que bon, nous, on avait un 4x4 Mercedes et une Laguna basique. Et il m'a dit « Il faudrait une limousine, on ne peut pas aller chercher les acteurs. » Donc il m'avait fait réserver 2 gardes du corps, un pour chaque portail, pour ne pas que les artistes soient importunés, des fleurs naturelles dans les chambres et de la presse internationale. Lui, il n'avait aucun doute sur la demeure, mais il fallait que le service se suive. Je lui ai dit, oui, on fera ça, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, surtout que ça, tu le mets sur la facture, hein. C'est le studio qui paye. Pour Isabelle Otero, quand elle a su qu'elle venait, il fallait à tout prix la mettre dans la suite orientale parce que c'était la plus lumineuse, c'était la plus colorée, c'était celle qui avait des voilages, le lit à baldaquin et ainsi de suite. Et il nous avait fait mettre Jean Reno dans la chambre Afrique du Sud. Et il a dit, il est costaud, il est grand, il ne faut pas de pied de lit, et ainsi de suite. Donc tout était dans le détail. Les acteurs devaient arriver à 9h du matin de Paris. Et la veille au soir, il y avait la sœur de Nathalie qui était là. Et il n'a pas arrêté de la draguer toute la soirée. Et ils s'entendaient bien d'ailleurs. Hein. Donc on a passé une très belle soirée. On savait que le lendemain, c'était le jour J. On part se coucher. À l'époque, il était dans la chambre zen. Donc c'est la chambre qu'on a au deuxième étage. Et qui est une déco asiatique avec une salle de bain qui est dans un des pigeonniers du manoir. Il aimait bien cette chambre parce qu'elle était épurée avec des poutres apparentes et une grande salle de bain... à l'italienne, et la sœur de Nathalie dormait dans la chambre en face, la chambre romantique. Alors, il avait demandé à ce qu'on le réveille à 6h du matin. Moi, j'étais en train de m'affairer dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, puis je dis à Nathalie, ben, va le réveiller. Donc, elle monte au deuxième, elle frappe à la porte, et toque, et puis il répond pas. Bon, elle redescend 4 à 4, en me disant, ben, il répond pas. Ben, je lui dis, ben, s'il répond pas, il a peut-être pas fermé la porte. Tac, les clenches rentrent dans la chambre. Alors, elle fait ça, elle remonte, et puis il n'y avait plus personne dans le lit. Elle redescend, catastrophée, elle me dit, il est pas dans le lit. Ben, je lui dis, mais c'est sûr, il est avec ta sœur. Je suis sûr qu'il s'est fait ta sœur, là. Donc, va voir dans la chambre d'à côté. Donc, dans la chambre, sa sœur était là, mais il n'était pas dans le lit. il n'était pas dans le lit, elle est redescendue. Je lui dis, mince, alors, il fumait un petit peu des choses qui sentaient un peu bizarres. Donc, je lui dis, j'espère qu'il n'a pas pris quelque chose d'hallucinogène et qu'il est parti dans le jardin et qu'il se soit empalé sur les... On était en train de construire la piscine, donc il y avait les piquets en ferraille et tout ça. Donc je descends en peignoir à 6h du matin, je fais le tour du jardin. Bon, il n'y avait personne dans la piscine, donc j'étais rassuré. Je reviens de l'autre côté du manoir, je passe devant le parking. Ah mince, il n'y a plus ma voiture. Donc j'arrive dans la cuisine et puis je dis à Nathalie, dis donc chérie, il n'y a plus ma voiture. Mais on avait tellement sympathisé avec ce mec-là que j'ai pas de suite pensé qu'il avait pu me la voler. Je me suis dit, putain, il est trop sympa, il est parti tout seul, il a pas voulu nous embêter. Il a emprunté pour aller à l'aéroport. Donc j'appelle la gendarmerie, je leur explique qu'il était avec nous depuis 3 semaines. Bon, rapidement l'histoire. Il me demande une description succincte de son visage. Et de suite, les gendarmes disent, je pense qu'on le connaît. Je lui dis, oh, quand même, bon, peut-être. Mais je lui dis, mais moi, je crois qu'en fait, il n'a pas voulu m'embêter. Je vais prendre l'autre véhicule, je vais aller à l'aéroport. On va se retrouver à l'aéroport. Donc, il m'a dit, oui, d'accord, monsieur, vous faites comme ça, mais vous arrêtez à la gendarmerie en revenant, je pense. Donc, je suis arrivé à Toulouse. Bon, il n'y avait pas de vol qui arrivait de Paris pour à 9h. Donc, là, j'ai bien compris qu'on s'était fait rouler dans la farine. Je reviens de l'aéroport, je m'arrête à la gendarmerie. Et la gendarmerie me dit, écoutez, monsieur, on va vous montrer un certain nombre de photos et vous allez nous dire si vous le reconnaissez. Et donc, je tournais les pages et pof, je suis tombé sur son visage. Et la gendarmerie me dit, bon, écoutez, alors, appelez de suite le manoir, dites que surtout, on ne touche à rien et on vous envoie la scientifique. Ce qui a été incroyable, c'est que la veille au soir, il m'avait appelé au bureau en disant « Sylvain, j'ai un dernier repérage à faire avant l'arrivée des artistes et de Robert à Moissac. Est-ce que tu peux m'emmener à nouveau au cloître ?» J'ai pris ma voiture et on arrive à Moissac. Le clignotant de Gaswell clignote et il me dit « Tiens, t'as plus beaucoup d'essence avec ton accent canadien. Tu devrais faire le plein, ça nous fera gagner du temps pour demain. » Et je lui dis « Oh non, on fera le plein demain en passant en motoban. » Et alors, on va au cloître, on fait ce qu'on a à faire. On revient, on repasse devant la station-service, il me dit « Franchement, tu devrais faire le plein ». Bon, conclusion, j'ai fait le plein. Donc, il a eu le culot de me faire remplir le réservoir de la voiture, en plus. Et alors, pendant la nuit, à 4h du matin, le frère d'Anthony, qui s'appelle Alexandre, était en train de regarder la télévision. Et notre ami Alain Jolois est descendu en pleine nuit et a dit à Alexandre, « Dis donc, Alexandre, 4h du matin, tu ne dors pas encore. Si ton père le sait, demain, je vais lui dire. Tu vas te faire un peu ramonner. Ça va barder pour toi. » Donc, le gamin, il a eu la trouille. Dans le coup, il a éteint la télé, il est porté se coucher. Parce qu'en fait, il a été surpris que le gamin soit devant la télé. Donc, il est parti après, mais son plan avait failli foirer, puisque Alexandre était dans la salle à manger en train de regarder un film. Alors, c'est là où ça se corse. La scientifique arrive. Ça, c'était le lendemain matin. Je partais à l'étranger pour mon travail. Et donc, c'est Nathalie qui a reçu la scientifique. Donc, c'est deux camionnettes de la brigade criminelle, bleues, avec écrit en gros de chaque côté « brigade criminelle ». Donc, ils étaient dans l'allée principale du manoir. Ça se voit depuis la nationale. Et ils sont restés là une bonne partie de la journée pour faire des prélèvements. Il y avait des taches suspectes dans les draps, il y avait des poils de barbe qu'ils sont allés récupérer dans la bonde du lavabo. Ils ont fait leur travail, donc voilà, donc ils sont restés là. Mais ils sont restés tellement longtemps que tout le monde les a vus dans le village. De suite, ça parle. Je rentre de mon voyage d'affaires 15 jours plus tard, je vais à la boulangerie chercher les croissants pour les clients, et la boulangère qui me dit comme ça, avec son sourire, « Ah ben dites donc, Sylvain, vous êtes déjà sorti de prison ?» Ben, j'ai dit non, c'était pas moi qui étais en prison, mais on a été volé par un client qui nous a trompés, qui est parti avec ma voiture. Et la caisse, les espèces. Il n'a pas pris les chéquiers, il n'a pas pris les cartes bleues, il a pris les espèces qu'il y avait dans la caisse. Et puis, bien sûr, il est parti sans payer. Donc, il nous a laissé une ardoise de un peu plus de 4000 euros. Mais la voiture, on l'a retrouvée 3 semaines plus tard à la gare de Périgueux. Il y avait 5 PV avec le réservoir vide, forcément. Et c'est vrai que dans les affaires, je suis un vérificateur, je suis méfiant. Et bien là, au niveau de la maison d'hôte, je n'ai pas du tout été méfiant. Quand la police a fait son enquête, les gendarmes avaient demandé le nom de tous les clients qui avaient séjourné pendant sa période. Donc, ils ont regardé sur toute la période les appels entrants, les appels sortants. Ils ont rappelé des numéros et ils ont découvert que le numéro récurrent qu'il appelait en appel sortant, c'était une cabine téléphonique du 92. Et c'est comme ça qu'on a découvert que les fax qu'on recevait et les appels entrants et les appels sortants, c'était une supercherie avec un complice qui était dans le 92. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les connexions qu'on a aujourd'hui, il n'y avait pas Wikipédia, il n'y avait pas tout ça. Donc, on était à l'ère du dictionnaire. Quand il s'est présenté la première fois que je l'ai récupéré, il se faisait appeler Alan McGregor, mais c'était son nom de scène. Voilà. Un jour, on lui avait demandé, c'est pas moi, je crois que c'est un ami autour de la table qui lui avait dit « Quel est ton film préféré ?» Et le film préféré, c'était « Attrape-moi si tu peux ».
Attrape-moi si tu peux, le film de Spielberg avec Leonardo DiCaprio, c'est l'histoire d'un homme qui a vraiment existé, Frank Abagnale. Dès l'âge de 16 ans, il se fait passer pour pilote de ligne, puis professeur de droit et médecin. Il vit des faux chèques qu'il fabrique pendant des années. C'est le film préféré de tous les mythomanes, une source d'inspiration incontestable. Car non seulement le menteur est incroyablement beau et charismatique, mais en plus, ça finit bien, puisque l'escroc est recruté par le FBI à la fin.
Alors moi, je n'avais pas vu ce film-là, donc je ne savais pas de quoi il parlait. Et en fait, c'est son histoire. Vous regardez « Attrape-moi si tu peux » et c'est l'histoire qu'on a vécue.
À ce moment-là, Alain Jolois n'est donc pas du tout un arnaqueur de Tinder qui dépouille ses victimes jusqu'au moindre sou. Il commence plutôt sa carrière en divertissant ses proies, en les faisant rêver. Et celle-ci ne s'en offusque guère.
Moi, je ne lui en veux pas, parce qu'en fait, il m'a fait rêver. Il nous a permis, on a voyagé, on a rêvé. Il nous a fait découvrir le monde du cinéma, même si ce n'était pas vraiment un vrai cinéaste, mais il nous a tellement parlé du cinéma, et certainement c'était sa passion et qu'il aurait bien aimé pouvoir... Mais je trouve que ça nous a enrichis sur le plan de notre culture, ça nous a enrichis sur notre façon d'être, sur notre façon de faire, et moi je le remercie pour ça. C'était un gentil bonhomme, il était tout seul avec les enfants, c'était les vacances scolaires. On a vécu quelque chose d'intense avec lui.
Mais tout comme Alice dans notre premier épisode, Sylvain, lui aussi, veut voir jusqu'où ira l'histoire.
Sur le principe, je suis d'un naturel curieux. Et donc, je me suis dit, aller au tribunal, ça peut être intéressant d'avoir cette expérience-là. Donc, on a porté plainte. Et donc, un jour, on a été convoqué au tribunal. Donc, il était à la barre des accusés. Et moi, j'étais à la barre de la défense. Le président du tribunal disait toujours, « Monsieur Gelois, ne regardez pas, monsieur, dans... regardez la cour. » Et lui, me regardait droit dans les yeux et il disait, « Mais... Monsieur a dit qu'il m'avait servi du foie gras. C'est pas possible, j'ai horreur du foie gras. Monsieur a dit, avec son épouse, que tel jour, j'ai dîné à sa table. C'est pas possible. Vous avez dans le dossier un courrier adressé de monsieur le curé d'Angoulême qui dit que ce soir-là, j'étais avec mon épouse en train de manger au presbytère. Donc c'est un faux. Monsieur raconte des sornettes. Je n'étais pas chez lui ce jour-là. Voilà. Donc monsieur le curé avait fait un faux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et il disait, j'ai bien lu dans ce que les gendarmes ont écrit que j'avais une verrue sur le nez. Mais jamais de la vie. C'est un grain de beauté. Donc ça ne peut pas être une verrue, c'est un grain de beauté. Oui, regardez comme il est beau, mon grain de beauté. Mais il faisait son cinéma. Il avait peur de rien. Voilà.
En première instance, le faux cinéaste avec son fort accent québécois est condamné à 4 mois de prison et 4 264 euros de dommages et intérêts. Il versera à Sylvain et sa femme quelques mensualités d'1,95 € provenant de son travail en prison, et puis plus rien. Les motifs de la condamnation, c'est ce qu'on appelle la grivellerie ou la filouterie, c'est-à-dire profiter d'un service sans intention de le payer. Il y a la filouterie d'aliments, la filouterie de logement et même la filouterie de carburant ou de transport, taxi et voiture de place.
Nous étions la 195e grivellerie d'hôtel. Nous, on était la 195e et ça remonte à 2004. Donc, il a dû encore pouvoir faire d'autres périples ou d'autres affaires avec d'autres personnes, certainement.
Je ne sais pas exactement d'où vient ce chiffre de 195 qui me semble un peu excessif. Mais ce qui est sûr, c'est que lors des audiences, Sylvain et Nathalie comprennent qu'ils sont loin d'être les seuls à avoir eu affaire à ce pique-assiette professionnel. Jolois a déjà une longue carrière derrière lui. C'était le pique-assiette, splendeur et misère d'un mythomane, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society, reportage Alain Lefkovitch, réalisation Anne-Laure Chanel, mixage Alexandre Dang, conseil à la narration Adila Benedjaizou et la musique, c'est Gilles Lavanant. Merci à Inès Bouffartig, Sébastien et à Lucie Tétard, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Luce Mourant. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say. Never my type. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts
hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me who you really love.
When you look up,
tell me who you really love. Fall comes by surprise. Truth is told to someone else. Lovers are strangers. There's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.